Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nina, vous êtes bien dans 3 en 1 sur le 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Nous entamons aujourd'hui notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
On n'a pas de déboire.
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond.
Résistance. Venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, l'émission d'actualité locale et de société sur Canal B. Il est midi 15, nous sommes lundi 25 mai. J'espère que vous profitez bien de votre jour férié si vous ne travaillez pas. Et puis si vous nous écoutez en rediffusion ce mardi matin, eh bien bon trajet, bon réveil ou bien encore bon appétit, c'est au choix. Aujourd'hui, on va parler d'actualité culturelle, mais depuis le point de vue des travailleurs et des travailleuses du secteur. Ça ne vous aura pas échappé, le Festival de Cannes vient de se terminer. Cette année, plusieurs organisations syndicales ont lancé une campagne nommée Infocriblage pour alerter sur les pratiques de criblage administratif qui pourraient écarter abusivement certaines personnes de leur emploi. On vous en parle plus en détail dans l'interview du jour qui est consacrée et qui commencera dans quelques instants. Et puis la semaine dernière, Valentine de la rédaction est partie en reportage au cœur du chantier de découvrement du parking Vilaine. On pourra entendre dans ce reportage le conducteur des opérations de la ville, mais aussi les paysagistes qui participeront à l'aménagement des quais. De quoi, en gros, vous donner un peu de perspective sur la vision officielle des porteurs de ce projet. Ce sera à 12h40 dans 3 en 1. On est ensemble donc pour 30 minutes sur Canal B. Alors avant de nous lancer dans ce programme bien rempli, je vous propose une petite intro musicale pour se mettre en jambe.
Don't go away, why is she?
Et bien voilà, Shut It Down de Boys Noize sur Canal B. Pas besoin de vous en dire beaucoup plus, je crois que l'objectif de se réveiller a été atteint. On parle beaucoup du Festival de Cannes ces jours-ci et on va en parler nous aussi du point de vue des travailleurs et des travailleuses. L'une d'elles se serait vue empêchée de travailler sur le Festival de Cannes l'année dernière suite à un avis défavorable émis par la préfecture de Grasse. Alors pourquoi les préfectures s'expriment-elles sur le choix des personnes embauchées lors d'un festival de cinéma et quelles en sont les conséquences ? On en parle tout de suite avec un membre du syndicat Sud Culture Solidaire. Bonjour.
Bonjour.
Alors le syndicat Sud Culture Solidaire, avec d'autres collectifs comme le collectif Sous les écrans, la Dèche, a lancé une campagne d'information et d'aide auprès des travailleurs du secteur qui verraient leur embauche au Festival de Cannes bloquée par ce mécanisme d'avis défavorable dont on va parler tout de suite. C'est un sujet un peu complexe, alors je vous propose de repartir du début ensemble. En gros, depuis 2016, la loi pour la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme prévoit une enquête administrative appelée criblage sur les personnes embauchées pendant de grands événements. Ce criblage, il est pensé pour exclure toute personne dont les agissements pourraient en gros porter atteinte à la sécurité du public ou à la sécurité de l'État, selon les mots de la loi que je cite. En 2024, vous, au syndicat Sud Culture Solidaire, vous découvrez cette pratique via une personne qui suppose avoir reçu un avis défavorable de la part de la préfecture, car son contrat est annulé à la dernière minute. La personne en question suppose, là encore, que l'avis défavorable qu'elle a reçu est en lien avec des manifestations écologistes auxquelles elle a participé. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous, en tant que syndicat, vous faites à ce moment-là et où ça en est aujourd'hui ?
Quand cette personne, donc cette adhérente du syndicat, est venue nous trouver, alors pour être tout à fait exact, son contrat n'a pas été annulé, son contrat a été aménagé par son employeur qui lui a permis du coup de ne pas partir pour Cannes et de rester là où elle résidait à Lyon pendant la période. Elle a quand même été payée sur le pendant le temps de son contrat. En revanche, elle a été empêchée de travailler sur les lieux du festival et pendant la durée du festival. Et là, cette année, typiquement, elle n'est pas à Cannes, puisqu'elle ne peut plus travailler sur le festival, puisque de fait, elle a reçu cet avis défavorable et pour un employeur, c'est plutôt un signe d'une fin de collaboration. Elle est venue nous trouver pour qu'on puisse l'accompagner juridiquement. Voilà, le syndicat Sud Culture Solidaire a une commission juridique qui accompagne des salariés qui peuvent être en difficulté avec leurs employeurs ou là, en l'occurrence, carrément avec l'État. Et donc, on a sollicité un avocat avec lequel on travaille régulièrement, qui est Maître Thibault Laforcade, qui a suivi ce dossier depuis le début. Il y a eu une plainte au tribunal administratif de Lyon qui a été déposée contre la sous-préfecture de Grasse et l'avis défavorable qui a été mis à l'encontre de notre camarade. Et là, au point où nous en sommes, il y a aussi une question prioritaire de constitutionnalité qui a été déposée devant le Conseil d'État pour que ça passe ensuite au Conseil constitutionnel, qui est axé sur les libertés fondamentales et les atteintes aux libertés fondamentales qu'implique cette loi de 2016 sur les 10 grands événements et sur le criblage administratif.
On va en reparler du coup plus tard dans l'interview de cette QPC, cette question prioritaire de constitutionnalité. Un point important à mon sens, une fois que la préfecture a émis un avis défavorable sur notre personne, eh bien vous supposez que les employeurs avec qui on avait l'habitude de travailler ne vont plus faire appel à nos services, c'est ça que vous entendez ?
Bah là, par exemple, pour l'employeur de notre camarade, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait déjà commencé à travailler pour le festival. Et en cours de contrat, son employeur a reçu cet avis défavorable qui lui a été transmis par les organisateurs du festival. Voilà, donc c'est passé par la sous-préfecture, puis par les organisateurs du festival, enfin l'organisation officielle, puis c'est arrivé chez son employeur, et qui s'est de fait retrouvé avec un poste en moins sur place. C'est-à-dire que son employeur n'a pas du tout cherché à lui faire des difficultés, à essayer de rompre le contrat ou à la licencier. C'est-à-dire qu'il lui a quand même permis de finir son contrat, Mais de fait, un employeur ne s'exposera pas à devoir perdre un poste et à devoir trouver quelqu'un en urgence à la dernière minute, à quelques jours du début du festival, ou alors même que le festival vient tout juste de commencer. Mais en fait, il y a plein de situations, et il y a des précédents sur les Jeux Olympiques de 2024 ou sur d'autres grands événements, hein, de personnes qui auraient dû être embauchées et qui soudain sont sans nouvelles de leurs employeurs, ou de personnes qui ont commencé à travailler et qui subissent une grosse pression de leur employeur pour rompre le contrat, pour accepter des avenants au contrat, voilà, pour pas qu'ils aient à les payer sur les jours qui suivent, l'émission de l'avis défavorable. Donc oui, ça met en difficulté des personnes qui, par définition, puisqu'elles travaillent sur des festivals ou sur des événements culturels ou événementiels, ça met en difficulté des personnes qui sont déjà dans une forme d'emploi précaire parce que en discontinuité d'emploi.
Oui, et c'est ce que j'allais aussi vous demander. Quand on est, en l'occurrence, pas intermittent du spectacle, parce que ce que vous rappelez dans la campagne Infocriblage, c'est que les travailleurs et travailleuses des festivals de cinéma ne sont plus à ce jour considérés comme intermittents, donc ils ne bénéficient pas de ce statut. Quand on travaille avec des contrats courts, du coup, à répétition, perdre un contrat comme peut-être le Festival de Cannes ou un autre gros événement, ça peut représenter une part non négligeable, j'imagine, sur les ressources, sur nos ressources au niveau annuel.
Oui, une part non négligeable, et de fait, les personnes qui apprennent du jour au lendemain qu'elles sont privées d'emploi pour le mois, voire les deux mois, voire les trois mois à venir, pour trouver autre chose, c'est quand même assez compliqué. Quand on a prévu de travailler, en tout cas, comme c'est le cas de notre camarade, hein, qui travaillait déjà assez régulièrement avec le festival pour différents employeurs, là, elle a vu la possibilité de travailler au mois de mai et aussi possiblement en amont du mois de mai pour le festival s'arrêter. Évidemment, ça met dans une situation de précarité les personnes une situation de précarité supplémentaire, les personnes qui subissent ces avis défavorables. Et c'est là où nous, on a, en tout cas d'un point de vue politique, quelque chose à réclamer. C'est la fin du criblage administratif des travailleurs. Parce que ça met en péril, d'une part, leur possibilité de subsistance, et d'autre part, leur liberté d'opinion et d'expression, d'aller en manifestation, de se dire que, oui, je peux exprimer à haute voix mon opinion sans risquer de perdre mon emploi. I am a serious rising.
I am not.
Vous les avez peut-être reconnues, les sœurs du groupe IBI avec un nouveau titre sorti il y a quelques jours. De retour dans 3 en 1 après cette courte pause musicale aujourd'hui, on vous propose une interview réalisée il y a quelques jours alors que le Festival de Cannes battait encore son plein. J'ai reçu le syndicat Sud Culture Solidaire au sujet de la campagne qu'ils ont lancée pour dénoncer les pratiques de criblage administratif dont les travailleurs et les travailleuses du festival font l'objet. Et je lui ai demandé de revenir sur ce qu'ils avaient mis en place cette année en amont et pendant le festival.
On a d'abord commencé par contacter les organisateurs et les employeurs, déjà ceux de l'édition précédente du festival, pour leur rappeler à leurs obligations de prévenir les personnes dont elles allaient diffuser, dont elles allaient donner les informations personnelles à la préfecture, qu'elles allaient subir ce criblage, déjà, parce que ça c'est prévu par la loi, ça c'est une obligation des employeurs et des organisateurs, et d'autre part leur rappeler leur deuxième obligation, à savoir de communiquer aux personnes concernées si elles ont subi un avis défavorable. Ça, on a fait ça, je pense, il y a un mois et demi. Par la suite, on s'est donc réuni avec la CGT Spectacle, le STUX, donc le Syndicat des Travailleurs Unis de la Culture et du Spectacle, avec Sud P2ST aussi, qui est un syndicat qui représente les travailleuses du tertiaire, et aussi avec donc le collectif, comme vous l'avez dit, le collectif Sous les Écrans La Dèche, pour pouvoir diffuser autant que faire se peut cette campagne, sensibiliser les personnes au fait qu'elles vont subir ce criblage administratif et qu'elles vont potentiellement être empêchées de travailler si la préfecture de la sous-préfecture de Grasse le décide. En fait, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant cette année, c'est que le décret qui dit que le Festival de Cannes est un grand événement est paru très tardivement par rapport aux années précédentes. Les années précédentes, plus ça allait dans le temps, plus le décret était publié tôt. Là, il est arrivé assez tard, signé le 30 avril et publié le 2 mai. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a communiqué en amont sur le fait qu'il pouvait y avoir ce criblage, notamment sur les réseaux sociaux. Et là, on continue de communiquer et sur place et sur les réseaux pour essayer d'informer autant que faire se peut les gens. Nous, ce qu'on redoute, et c'est pour ça qu'on essaye de faire durer cette campagne dans le temps, ce qu'on redoute, c'est que des personnes qui n'avaient pas encore signé leur contrat de travail n'ont pas été informées par leur employeur qu'elles allaient être criblées, ont reçu des avis défavorables, sont sans nouvelles de leur employeur et ne savent même pas pourquoi elles sont sans nouvelles de leur employeur. Ça, c'est vraiment la chose qu'on craint, et que en fait les personnes soient complètement privées de l'information du fait qu'elles ont fait l'objet d'une enquête administrative négative de la sous-préfecture de Grasse.
Il y a à la fois cet enjeu d'être privé de cette information, qu'on a fait l'objet d'une procédure administrative, qu'un avis défavorable a été émis à notre encontre. Il y a aussi une opacité totale sur les raisons qui ont poussé la préfecture à émettre cet avis défavorable. Les préfectures, si je ne me trompe pas, ne sont pas dans l'obligation de justifier, de motiver leurs décisions. Se pose alors la question pour les personnes qui savent avoir été victimes, on va dire, de ce criblage, de se dire... pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et si je n'ai jamais eu de démêlé avec la justice, ne serait-ce qu'avec la police, pourquoi est-ce que je suis interdite de travailler sur ce festival-là ? Comment on explique cette opacité ? Et du coup, quelles questions la personne, par exemple, que vous accompagnez se pose ?
Alors, en effet, la décision... c'est la sous-préfecture de Grasse, elle transmet, et c'est le cas pour tous les grands événements, la préfecture, donc l'émanation du ministère de l'Intérieur, elle transmet à un service de police qui s'appelle le SNEAS, donc le Service National des Enquêtes Administratives de Sécurité, une liste des personnes qui sont prévues, en tout cas, en tant que participantes travailleuses d'un grand événement. Et donc, ce Service National des Enquêtes Administratives de Sécurité, elle va consulter une sorte de logiciel qui s'appelle ACRED et qui va lui-même consulter une quinzaine de fichiers différents dans lesquels sont enregistrées des personnes surveillées par l'État pour des raisons diverses. Là-dessus, le SNEAS transmet à l'autorité compétente, là en l'occurrence pour le Festival de Cannes, la sous-préfecture de Grasse, les avis défavorables. Et donc, cet avis défavorable, il est donné sans motif aucun, c'est un avis discrétionnaire. Alors d'une certaine manière, tant mieux que l'employeur ne sache pas pourquoi est-ce que l'avis défavorable a été émis à l'encontre de son employé.
Oui, pour protéger sa vie privée dans un premier temps.
Déjà, voilà, pour protéger sa vie privée. Mais là, le très gros problème, en effet, c'est en tout cas, nous, notre camarade qui a été concerné par cet avis défavorable et par cette mise à l'écart lors du Festival de Cannes dernier, elle a ressenti déjà un fort auto-soupçon de se dire « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» C'est-à-dire ne pas encore réaliser qu'on est la victime d'un système de police administrative, hein, clairement. C'est-à-dire qu'une décision lourde de conséquences qui n'est pas motivée par un juge ou par une disposition juridique, mais bien par des administratifs, hein, qui décident à distance en n'ayant une connaissance d'aucun fait finalement, hein, c'est juste des gens qui sont mis dans des fichiers, de savoir si on peut participer à un événement ou pas et si on peut y travailler. Donc ça a été, en tout cas pour elle, source de beaucoup d'angoisse, de beaucoup de stress, avant qu'elle réalise qu'elle était victime d'une situation injuste, vraiment illégitime. Et le fait que ce motif ne soit pas transmis, il nous fait retraverser l'ensemble de nos activités militantes et politiques sous le regard de l'auto-soupçon, quoi. On se sent, en fait, on se sent fliqué. De fait, c'est le cas. On devient les flics de soi-même. Et c'est là où il y a une atteinte à notre liberté d'expression et d'opinion. C'est que si on se demande, quand on va en mobilisation, quand on va en manifestation, pour des causes qui sont, en tout cas, pour les causes que défend notre camarade, des causes de protection de l'environnement, de droits humains par exemple, si on se dit qu'en fait en allant à manifester, potentiellement on se met en danger, en plus de se mettre en danger physiquement vis-à-vis des systèmes répressifs policiers, si en plus on se met en danger économiquement parce qu'on risque de perdre notre emploi, c'est là où cette absence de motivation de l'avis défavorable est très pernicieuse.
Très rapidement, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, qu'est-ce que vous attendez de la question prioritaire de constitutionnalité que vous avez déposée ?
Alors, nous, ce qu'on en attend, c'est assez simplement un changement de la loi. Telle qu'elle est écrite, cette loi, elle laisse quand même une immense liberté au pouvoir administratif, donc à la police, hein, de prendre des décisions qui entravent les libertés fondamentales, des décisions qui habituellement sont plutôt celles qui sont prises par la justice. C'est-à-dire que si on prononce des mesures d'éloignement, si on empêche des personnes de se présenter dans un certain périmètre à certaines dates, ça habituellement c'est à la justice de se prononcer. Et donc pour qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait eu des poursuites, il faut qu'il y ait eu des délits, il faut qu'il y ait eu une infraction, ne serait-ce que ça. Là, il y a des personnes qui n'ont pas commis d'infraction, qui n'ont pas commis de délit, qui n'ont pas commis de crime. Là, dans le cas de notre camarade par exemple, elle n'a même pas subi la moindre garde à vue à la suite d'une manifestation ou d'une mobilisation, et elle est privée d'emploi. Nous, ce qu'on attend, c'est que cesse d'une part le criblage administratif sur les grands événements, et d'autre part que cesse le fichage généralisé des militants politiques du pays. Aujourd'hui, c'est être empêché de travailler sur les festivals, c'est déjà très très alertant, mais nous, ce qu'on craint, c'est que demain, si le pouvoir tombe dans des mains encore plus d'extrême droite, que ça soit généralisé et que on puisse, on veut travailler, je ne sais pas, dans les services publics, dans l'enseignement, dans certains domaines qui a priori n'étaient pas concernés par des questions antiterroristes ou quoi, on puisse être empêché de travailler, et que de fait cette crainte, elle nous muselle politiquement, elle nous muselle syndicalement, et que notre liberté politique soit atteinte.
Merci beaucoup. Vous parliez pour le syndicat Sud Culture Solidaire. La campagne Info Criblage est encore en cours. Si vous êtes concerné par ce sujet, vous pouvez la retrouver sur Internet. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Si Si l'envers du décor des grands événements culturels comme le Festival de Cannes vous intéresse, eh bien, vous pourrez retrouver cette interview en podcast sur notre site canalb.fr d'ici quelques heures. Maintenant, place au reportage de la rédaction dans 3 en 1. On part dans le centre-ville de Rennes, au cœur du chantier du parking Vilaine, découvrir le point de vue officiel des porteurs de ce projet à plusieurs millions d'euros. C'est la deuxième partie de ce reportage dont on vous a diffusé la première partie la semaine dernière. Aujourd'hui, vous allez y entendre tout d'abord Jean-François Papin, qui est conducteur des opérations d'aménagement des quais pour Rennes-Ville et Métropole, et puis Christophe Cosette, qui lui est architecte paysagiste, prestataire en charge des aménagements le long des quais. Et vous y reconnaîtrez sans doute aussi la voix de la maire de Rennes, Nathalie Appéré. C'est un reportage réalisé pendant une visite officielle du chantier et dont vous pourrez entendre la version complète dans les semaines à venir sur notre antenne.
Effectivement, dès qu'on fait un ouvrage comme celui-ci, un parking, c'est assez courant, mais le fait d'être au-dessus de l'eau, c'est ça qui rend le chantier très particulier. Et avec un impératif qui était de rien faire tomber dans l'eau. Et donc la mise en place d'un certain nombre de protections pour empêcher justement la toute chute de gravats dans l'eau qui était mise en place, et c'est ça qui complexifie de manière importante le chantier, puisqu'à chaque fois qu'on avance de 5 mètres, à chaque fois qu'on avance d'un pas, il faut remettre en place toutes les protections, s'assurer que c'est en place avant de pouvoir déconstruire. Alors quelques ordres de grandeur, donc c'est 6600 m² de parking à déconstruire sur 270 mètres de long, c'est 6 à 7 000 tonnes de béton et acier qui constituait la structure du parking, et c'est 1000 tonnes d'enrobés. On avait un enrobé en surface, c'est 1000 tonnes d'enrobés qu'on a enlevé.
La découverture, tout s'est passé par le fleuve, donc il n'y a pas de camion. Donc on déconstruit, on met les matériaux, là il y a 6000 tonnes de béton qui ont été concassés, grignotés, posés sur des barges et évacués du centre-ville par voie d'eau, donc et traités plus loin sur des plateformes. Donc voilà, on trouve des solutions.
Les bénéfices du découvrement du parking Vilaine semblent évidents pour la viabilité de nos villes et notre capacité à y vivre correctement sur le moyen et le long terme. Mais ce projet est aussi un très bon exemple d'un aménagement urbain à l'équation subtile. Entre complexité du chantier en lui-même, la volonté de limiter les émissions carbone des travaux, mais aussi l'adhésion des riverains et des négociations nécessaires avec les commerçants et commerçantes de la zone.
C'est une très longue concertation, c'est des débats, des discussions sur la fréquentation du centre-ville qui faisait partie des craintes qui pouvaient être exprimées par des commerçants. Il y a à l'échelle du centre-ville quelques 6000 places avec un taux de disponibilité très important, et donc les quelques 300 places que représentait le parking Vilaine sont en réalité très faibles au regard de l'offre globale de stationnement.
J'ai insisté sur ce qu'est l'ambition climatique de ce projet, mais il y a aussi une dimension d'embellissement, de valorisation, bien sûr du patrimoine naturel, mais aussi du patrimoine bâti. Et on regarde différemment le Palais de la République ou le bâti des quais au niveau de l'eau, sur des proportions qu'avaient conçues de fait les auteurs de la canalisation, des proportions qui sont extrêmement intéressantes.
Le découvrement du parking Vilaine ne se limite donc pas seulement à une adaptation à l'urgence climatique, mais se fonde également dans un projet bien plus large d'attractivité du territoire. L'enjeu, là, est de créer de nouveaux usages à partir de rien, comme l'explique Camille Tac, paysagiste et urbaniste de l'équipe de Christophe Cosette, entendu plus tôt.
On a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Déjà, dans une ville, ce n'est pas du tout les mêmes conditions qu'en contexte périurbain ou même dans une ville, dans un parc. Ici, on est en milieu très, très anthropisé, alors qu'on vient découvrir en découvrant la Vilaine, mais on a quand même des contraintes très fortes de réchauffement climatique. Et on va chercher à planter des arbres sur les quais, mais on a aussi une partie des plantations qui est située sur dalles. Et ça veut dire que le sol se dessèche très vite. Et en plus, le climat va évoluer. Donc même si on dit qu'il pleut beaucoup à Rennes, de toute manière, les choses vont quand même sensiblement évoluer avec des contrastes climatiques très forts suivant les saisons. Et ça, c'est une donnée essentielle pour choisir les plantations. Donc comme le disait Christophe, on va vraiment chercher la variété d'essences pour résister aux maladies, pour résister aux besoins en sécheresse, en humidité, etc. Et tenir le mieux possible dans le temps. On plante pour 50 à 70 ans, voire plus, si c'est ce qu'on espère.
On est en train d'étudier un très très beau sujet qui est le cœur de Morlaix. Voilà, la réouverture de la rivière et encore une fois de profiter de cette occasion-là qui est nécessaire pour des questions d'inondation notamment, pour redonner un autre visage au cœur de ville, une autre attractivité, un autre dynamisme aussi pour les commerces, pour les habitants, et encore une fois trouver de nouveaux usages dans le cœur de Morlaix. Si vous connaissez, c'est pareil, c'est des grands parkings un peu à perte de vue là, et donc il y a évidemment beaucoup mieux à faire sans non plus bannir la voiture, hein. On n'est pas les... Voilà, il faut des voitures quand même, il faut pouvoir se garer, mais il faut modérer un petit peu plus, partager l'espace maintenant.
Défaire ce qui a été fait a donc un coût financier, écologique, urbain, mais c'est un calcul coût-bénéfice auquel de plus en plus de villes se livrent avant qu'il ne soit trop tard. C'était un reportage réalisé par Valentine de la rédaction de Canal B. Merci beaucoup à elle. 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès mercredi, même heure, même fréquence sur le 94 FM. Avant de vous quitter, une petite information. Ce vendredi de 12h30 à 14h, nous allons diffuser une table ronde qui aura lieu ce mercredi à l'initiative du 4 bis Information Jeunesse. Une table ronde qui aura pour thème jeunesse et transition au pluriel. Des jeunes vont y interpeller et poser des questions directement à des entreprises, des élus, mais aussi des associations sur les grandes transitions actuelles comme l'emploi et l'écologie. À mon avis, c'est une belle occasion de se confronter aux exigences et aussi à la lucidité des jeunes engagés sur notre territoire. Ce sera donc à retrouver en rediffusion ce vendredi à 12h30 sur le 94 FM. En attendant, l'ensemble des podcasts de 3 en 1 est à retrouver sur canalb.fr, tout comme le reste des émissions de la station. Dans quelques minutes, à 13h, vous retrouverez Gymnastique Sonore, l'émission de création sonore qui vous fait prendre l'air bien souvent et vous propose des sujets assez uniques. Et si vous prévoyez de faire la sieste, eh bien restez aussi avec nous puisque vous aurez une bande-son tout à fait à propos dans la sieste musicale dès 14h sur Canal B. Bonne journée à vous sur le 94 FM.